prévu à cette conférence hebdomadaire des Nations Unies. Au sommaire de cette conférence de presse, et comme d'habitude, nous allons ouvrir avec les informations relatives aux composants de la MONUSCO. Puis ce sera le tour de l'équipe pays, avec notamment des informations en développement avec Geneviève Delenoy. Et puis nous aurons de Goma le colonel Félix Prosper Basse, qui nous donnera le point des activités militaires au cours de la semaine écoulée. Nos invités aujourd'hui sont tout d'abord le représentant pays d'ONU-SIDA en RDC, le docteur Lamine Mamadou Sakho, qui va nous rejoindre d'un moment à l'autre. Et puis, comme vous le voyez, j'ai à ma droite Abdallah Wafi, le représentant spécial adjoint du secrétaire des Nations Unies, chargé des opérations à l'Est. Voilà qui est dit. Nous commençons tout de suite avec les activités des composants de la MONUSCO. Information publique tout d'abord. Le chef de la MONUSCO et l'ambassadeur de Grande-Bretagne et RDC sont arrivés ce matin à Beni. Monsieur Martin Kobler et Marc David Power sont accompagnés du commandant de la force de la MONUSCO ainsi que de plusieurs diplomates français et américains. Pour Martin Kobler, il s'agit d'une visite de solidarité avec la population victime des massacres dans la région de Beni. Le dimanche 30 novembre dernier, la mission des Nations Unies pour la stabilisation en RDC a totalisé 15 ans d'existence depuis sa création en novembre 1999. Durant la semaine en cours, la MONUSCO organise donc une série d'activités, notamment des émissions radio-télévisées en vue non seulement de faire le bilan, mais aussi de dresser les perspectives à venir. Radio Okapi donc anime plusieurs émissions dans ce cadre. Et ce jeudi 4 décembre, de 15h30 à 16h30, Martin Kobler, représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies et chef de la MONUSCO, va répondre à diverses questions des internautes, je dis bien des internautes. C'est à suivre en direct donc sur le site web de la MONUSCO et de Radio Okapi. Comme vous le savez, c'est monusco.unmission.org ou radiookapi.net, ainsi que sur les médias sociaux de la MONUSCO et de Radio Okapi. Vous pouvez suivre donc ces deux débats ou ce débat d'une heure en direct sur les sites web de la MONUSCO et de Radio Okapi. Et puis, le vendredi 5 novembre, la MONUSCO organise une conférence débat de 9h30 à 13h30 à l'hôtel Soutani avec comme thème principal 15 ans de la mission des Nations Unies pour la stabilisation RDC, bilan et perspective, à laquelle prendront part près de 200 leaders d'opinion. La matinée de réflexion sera organisée sous forme de communication suivie de débat sur des sous-thèmes ci-après. Aperçu historique du processus de paix de la RDC de 1999 à 2014, apport de la MONUSCO au processus de paix, ensuite un regard critique donc du travail de la MONUSCO, efforts sécuritaires et militaires de la communauté internationale en RDC, l'impact économique de la présence de la MONUSCO en RDC, et enfin l'avenir de la RDC et les défis de stabilisation en Afrique. Ensuite, du 3 au 5 décembre, se tient à l'hôtel Memling à Kinshasa un atelier sur l'installation de la formation du Comité national sur la prévention du crime de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité et de toute forme de discrimination en République démocratique du Congo. Le lancement officiel de ces activités connaîtra la participation des autorités, du gouvernement, de la MONUSCO et des agences des Nations Unies RDC. Et puis plusieurs autres sujets en rapport avec la prévention du génocide et d'autres crimes atroces seront présentés par d'éminents professeurs et autres personnalités congolaises et étrangères. À présent, section DDR, le processus de relocalisation des anciens FDLR vers Kisangani se poursuit toujours. L'apport de la MONUSCO dans le processus est toujours et surtout logistique. Jusqu'à ce jour, le site de transit Camp Général Bauma a reçu un effectif de 549 ex-combattants des FDLR et leurs dépendants. Les groupes venant du Nord Kivu ont été transportés par avion MONUSCO et ceux venant du Sud Kivu par le gouvernement de la RDC. L'équipe de la MONUSCO qui a assuré l'entretien du site et puis ensuite la MONUSCO à travers l'équipe médicale du contingent égyptien appuie la structure médicale du camp. La mission des Nations Unies RDC, au-delà de l'apport en vivres, a fourni également d'importants lots de matériel utilitaire. Ensuite, une délégation de travail du Conseil de sécurité des Nations Unies sur le sort des enfants en période de conflit armé effectue une visite depuis le 30 novembre dernier. La visite s'achève demain. Cette délégation est conduite par la représentante permanente du Luxembourg aux Nations Unies, Mme Sylvie Lucas. La délégation est composée des représentants délégués des missions permanentes de l'Australie, des États-Unis, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Lituanie, du Nigeria et du Rwanda auprès des Nations Unies. Au cours de cette visite, les membres du groupe vont échanger sur leurs progrès réalisés, tout comme les défis restants à relever avec les différentes parties prenantes, des représentants gouvernementaux concernés ainsi que des responsables de la MONUSCO. Plus de 1250 enfants ont été directement affectés par les violences durant cette année en RDC. Ils ont été soit tués, recrutés par des groupes armés, maltraités ou soumis à des violences sexuelles par les parties en conflit. Section appui à la stabilisation. Un projet de stabilisation du nord du territoire de Kaélé a été lancé ce lundi 1er décembre à Minova dans le sud Kivu. Soutenu par les autorités nationales et provinciales dans le cadre du plan de stabilisation et de reconstruction à l'est de la République démocratique du Congo, STAREC, ce projet d'un coût de 3,6 millions de dollars américains est financé par le Fonds pour la consolidation de la paix des Nations Unies. Sa zone d'intervention est l'axe Minova-Numbu-Ziralo, qui représente un bassin de population de 20 000 ménages. Lors des 18 prochains mois, des actions seront menées afin d'initier un processus de dialogue entre les populations et les autorités locales, renforcer la présence et la qualité des services administratifs essentiels et initier des activités socio-économiques à petite échelle. Appui à l'administration pénitentiaire, le chef de la section appui à la justice de la MONUSCO, Stéphanie Marfel, et le nouveau chef adjoint de ce département, Madame Patience Sey, ont eu une série d'entretiens respectivement avec l'inspecteur en chef de l'administration pénitentiaire militaire, le colonel Massenga, sur un programme de formation triennale. Dans le cadre du désengorgement des prisons et du renforcement de la sécurité pénitentiaire, la prison centrale de Goma a transféré 20 prisonniers, dont 15 appartenant au groupe armé Nalu, à Kinshasa, tandis que 78 prisonniers composés de 35 éléments des groupes armés, 6 éléments de la police, 8 éléments des FRDC, 27 civils et 2 membres de la juridiction civile ont bénéficié d'une amnistie. Section genre, le bureau genre de la MONUSCO a organisé du 26 au 27 novembre dernier à Goma un atelier de travail à l'occasion des journées portes ouvertes marquant le 14e anniversaire de la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le gouvernement provincial du Nord Kivu, à travers le ministère provincial du genre, en collaboration avec la division provinciale du genre, famille, enfants et des partenaires du développement, dont les agences du système des Nations Unies et la coordination de la société civile, ont pris part à cette activité qui avait pour but d'évaluer à mi-parcours la mise en œuvre du plan d'action national sur la résolution 1325 au cours des 4 dernières années au Nord Kivu, c'est-à-dire depuis son adoption en octobre 2010 en RDC. Pendant ces 2 jours, les différents acteurs travaillant dans le domaine ont passé en revue les progrès réalisés et les contraintes rencontrées par les parties prenantes dans la mise en œuvre de ce plan d'action et se sont donc engagés à rendre opérationnels à court terme les structures et mécanismes de suivi au niveau provincial. Par ailleurs, le bureau genre de la MONUSCO a également facilité la visite d'une semaine qui a pris fin lundi dernier d'une équipe genre du département des opérations de maintien de la paix du siège des Nations Unies à New York. Voilà tout pour les activités des différentes composantes de la MONUSCO en ce jour. Des activités bien longues, c'est pas d'habitude ainsi. Nous allons tout de suite passer la parole à l'équipe pays. Geneviève Delenoy, bonjour.
Bonjour Charles.
Au menu des activités, donc développement, vous commencez aujourd'hui par...
La Cour pénale internationale. Lundi 1er décembre 2014, la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale a confirmé à la majorité des juges le verdict de la Chambre de première instance 1, déclarant M. Lubanga coupable en qualité de co-auteur de crimes de guerre consistant en l'enrôlement et la conscription d'enfants de moins de 15 ans et le fait de les faire participer activement à des hostilités. La Chambre d'appel a également confirmé la peine de 14 ans d'emprisonnement. La décision concernant les réparations des victimes est encore en appel. Les juges se prononceront sur le principe des réparations dans un temps raisonnable. Dans un communiqué de presse paru hier, le procureur de la CPI, Madame Fatou Bensouda, a déclaré « Cet arrêt permet d'envoyer un message clair à tous ceux qui procèdent au recrutement et à la conscription d'enfants pour les faire participer activement à des hostilités. Ils auront à répondre de leurs actes, quel que soit leur statut ou leur position. Commettre un crime contre un enfant, c'est commettre un crime contre l'humanité tout entière. » Pour rappel, M. Lubanga était jugé par la Cour pénale internationale pour des crimes perpétrés du 1er septembre 2002 au 13 août 2003 dans le district de l'Ituri en province orientale et dans le cadre d'un conflit armé. Je vous précise aussi que M. Paul Madidi, conseiller de la Cour pénale internationale, est présent parmi nous et il pourra répondre à vos questions au moment du débat. Le programme des volontaires des Nations Unies à présent, la Journée internationale des volontaires est célébrée le 5 décembre de chaque année. À cette occasion, le programme des volontaires des Nations Unies et le secrétariat national du volontariat, en partenariat avec la plateforme des volontaires de Goma, France Volontaire, le programme des Nations Unies pour le développement et la MONUSCO, ont mis en valeur la contribution du volontariat au renforcement de la bonne gouvernance, de la cohésion sociale et à l'instauration de la paix et du développement. À Goma, la journée sera placée sous le haut patronage du coordinateur exécutif du programme VNU, Richard Dictus, qui fera écho de la campagne de sensibilisation à la citoyenneté active et à l'engagement civique lancée le 24 novembre dernier. La journée débutera à 11h20 avec une action éducative à l'éco-citoyenneté au collège Mwanga et se poursuivra au foyer culturel des jeunes de Goma avec une série de festivités, finale du concours interscolaire volontaires en herbe, pièces de théâtre, concerts et spectacles. En marge de la célébration officielle, un village des volontaires exposera le travail des associations membres de la plateforme. La cérémonie se terminera vers 16h30. À Kinshasa, le secrétariat national du volontariat animera un atelier sur le thème « Volontariat en appui à la bonne gouvernance » à la halle de la Gombe, Institut français, ce vendredi 5 décembre de 14 à 16h. En ce qui concerne le PNUD, hier 2 décembre, avait lieu le second forum des parlementaires sur les lois, les droits humains et le VIH-SIDA, qui s'est tenu sous la tutelle du président de l'Assemblée nationale. Ces assises ont été organisées par le Programme national multisectoriel de lutte contre le VIH-SIDA, le PNMLS, les députés et sénateurs, cellule VIH du Parlement, et le ministère de la Justice avec l'appui du PNUD. Cette année, la Journée mondiale de lutte contre le SIDA a pour thème « Combler l'écart pour mettre fin à l'épidémie de SIDA d'ici à 2030 ». Plus de 200 parlementaires ont pris part à ce forum et ont discuté des thématiques suivantes, les droits humains dans la lutte contre le VIH et le SIDA, l'environnement juridique légal avec les textes de loi qui nécessitent une révision, la part des ressources locales dans la lutte contre le VIH-SIDA, la nécessité d'avoir les parlementaires comme alliés de taille pour une riposte efficace au VIH-SIDA. Rappelons que l'objectif ultime est zéro discrimination liée au VIH, zéro nouvelle infection et zéro décès lié au VIH. Toujours à propos du PNUD, au Nord Kivu, à Massissi, le PNUD a inauguré du 3 au 5 décembre 2014 quatre centres de formation professionnelle pour jeunes et trois marchés réalisés dans le cadre de son projet « Consolidation de la paix dans les zones minières du Nord Kivu » exécuté conjointement par la FAO, le PNUD et l'UNICEF avec le financement du Japon ainsi que le projet « Relèvement communautaire et consolidation de la paix au Nord Kivu Koika » financé par la Corée du Sud. Ces deux projets ont pour but de réduire les tensions communautaires par le biais de prestations de services sociaux de base et améliorer les moyens de subsistance des collectivités locales. Les quatre centres de formation professionnelle vont encadrer 705 jeunes, dont 330 filles, qui sont considérés comme vulnérables, qui courent le risque d'être enrôlés dans les forces négatives, qui sont des ex-combattants ou encore des jeunes sortis des carrés miniers. Pour éviter que ces jeunes ne retombent aux mains des groupes armés ou des forces négatives, ils recevront des kits de formation, des kits de réinsertion pour créer des petites activités génératrices de revenus. Quant aux trois marchés construits à Louchébéré, Boubaya, Bimhabwe, toujours dans le Massissi, ils pourront faciliter la commercialisation des produits agricoles, source de revenus pour des milliers de ménages dans ces zones affectées par de multiples conflits. Et je termine encore avec le PNUD. Dans le cadre du projet de relèvement communautaire et consolidation de la paix au Nord Kivu, Koika, Le PNUD a organisé du 21 au 24 novembre dernier un atelier de 4 jours sur le montage de plans d'affaires, des business plans, dans le territoire de Walikale au Nord Kivu. Les bénéficiaires sont 17 membres de la cellule d'insertion sociale, les représentants des communautés gestionnaires des unités de transformation de l'huile de palme, ainsi que des responsables du centre de formation professionnelle mis en place par le PNUD. La formation dispensée par des experts du PNUD venus de Goma a abouti au montage de plans d'affaires incluant l'analyse du marché, l'étude de faisabilité des activités économiques et l'étude de la rentabilité d'une activité créatrice de revenus. Les communiqués de presse vous attendent à la fin de la conférence de presse. Merci.
Merci à Geneviève Delenoy pour ces informations du volet développement de l'équipe pays en RDC. Nous n'avons pas d'informations pour le volet humanitaire, mais nos collègues qui s'occupent de ce volet sont dans la salle pour répondre à d'éventuelles questions. Direction tout de suite dans Goma. Nous allons retrouver le colonel Félix Prosper Basse, fidèle à son poste toujours. Colonel, bonjour, c'est à vous.
Bonjour Charles, bonjour à tous. Donc nous démarrons ce survol de la situation sécuritaire par l'ouest de la République démocratique du Congo, où la situation sécuritaire a été jugée stable durant la semaine écoulée. En province orientale, les forces onusiennes et congolaises poursuivent leurs opérations contre les rebelles de l'armée de résistance du Seigneur et les RA, auteurs d'exactions et de pillages contre les populations civiles dans les districts de Haut et de Bawele. Le 27 novembre 2014, 5 soldats congolais ont été tués sur l'axe Kana-Kapili, en territoire de Dougou, et 4 armes récupérées par les rebelles ougandais de la LRA, encore actives dans la région de Guilima. Les casques bleus du contingent marocain et les forces spéciales guatémaltèques de la force de la MONUSCO opèrent dans ce secteur dans le but de traquer l'ennemi, contrôler la zone et protéger les populations civiles. Depuis le 14 novembre 2014, une autre opération conjointe MONUSCO et FRDC, dénommé Task Force OULE2, en d'autres termes Corps Expéditionnaire OULE2, a été lancé dans cette province avec le soutien du Commandement Unifié pour l'Afrique du Département de la Défense des États-Unis, AFRICOM. En Ituri, les négociations concernant la reddition volontaire des miliciens du Front de Résistance Patriotique de l'Ituri FRPI se poursuivent entre les autorités politico-militaires congolaises et le commandement de cette milice. Toutefois, des activités négatives perpétrées par les miliciens du FRPI ont été rapportées durant la semaine écoulée. Ce sont des miliciens qui sont réfractaires au processus de reddition qui a été enclenché. Selon les derniers rapports, au total 64 miliciens du FRPI, parmi lesquels 2 officiers, un major et un capitaine, avec 9 armes AK-47 et une mitrailleuse, se sont rendus au centre de transit situé à Rwampara, à 6 km au nord de Bunia-Centre. Alors, Kivu, le climat sécuritaire est demeuré volatile et imprévisible du fait des activités négatives des groupes armés rapportées dans les territoires de cette province. En effet, les exactions contre les populations civiles vivant dans les territoires de Beni, Boutembo ou Lubero ont été rapportées pendant la période sous examen. Dans le territoire de Beni, l'opération Sukola 1 des FRDC contre les rebelles résiduels de l'ADF se poursuit normalement avec le soutien de la force de la MONUSCO. Des patrouilles menées depuis le 24 novembre 2014 par les FRDC, soutenues par les casques dans les différents quartiers de Beni et Bokene, ont permis l'arrestation de 15 éléments supposés appartenir à l'ADF et 3 armes de guerre et 5 machettes récupérées. Dans la nuit du 2 décembre 2014, 3 civils ont été tués à coups de machettes, 2 femmes et un enfant mineur, et 3 autres grièvement blessés suite à une incursion des rebelles ougandais de l'ADF à Erengeti. Les blessés ont été évacués par la MONUSCO à l'hôpital de Rengeti pour des soins médicaux. Au sud Kivu, les troupes congolaises soutenues par la force de la MONUSCO poursuivent leurs opérations visant à neutraliser les groupes armés actifs dans cette province et maintiennent l'environnement sécuritaire sous leur contrôle. Le 27 novembre, 2 éléments Maïmaï ont été appréhendés et 3 armes récupérées au cours d'opérations de bouclage et de ratissage menées par les FRDC au village Le Holo, situé à 5 km au sud de Hombo. Durant la semaine écoulée, en termes de reddition, le gain est assez maigre. 2 éléments seulement du Front National de Libération, FNL, qui est un groupe rebelle burundais, ont fait reddition auprès des troupes FRDC déployées à Kala, à 6 km au nord de Kavimvira. Dans la province du Katanga, le climat sécuritaire demeure volatile et imprévisible du fait d'activités négatives perpétrées par les éléments des forces démocratiques de libération du Rwanda et ceux du groupe Mai Mai Bakatakatanga et Yakutumba. Le secteur 2, quant à lui, est calme. Et enfin, concernant les statistiques de nos patrouilles au cours de la semaine écoulée, nous en avons mené 2091 armées, dont 581 nocturnes et fourni 46 escortes. Je vous remercie de votre attention.
Colonel, merci et repos. Voilà, nous passons maintenant à notre invité. L'invité du jour, c'est, comme je vous le disais au début de cette conférence de presse, le docteur Lamine Mamadou Sakho, représentant pays d'ONU-SIDA RDC. Alors, vous savez que nous avons célébré au début de cette semaine la journée internationale de lutte contre le SIDA. Voilà. Donc, une fois n'est pas coutume, nous accueillons donc le docteur Sakho. Docteur, bonjour.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous. Vous avez la parole.
Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général adjoint, chers collègues de la presse et la communauté nationale et internationale. Comme vous le savez, la communauté mondiale célèbre la journée mondiale de lutte contre le sida depuis le 1er décembre. Et comme vous savez que c'est dans un contexte où l'épidémie d'Ebola n'a pas fini de faire encore ses ravages, c'est pour cela, c'est un environnement complexe de deux épidémies. Heureusement pour la RDC, la situation est très bien maîtrisée, et j'allais dire presque l'épidémie d'Ebola est totalement sous contrôle, et à l'état où nous parlons, il n'y a plus d'épidémie d'Ebola. Mais quand même, cette épidémie nous rappelle les premiers jours, la célébration nous rappelle les premiers jours de l'épidémie du sida, où il y avait des personnes qui avaient peur, la stigmatisation, le débat, la discussion. C'est pour cela, au moment où nous avons cette célébration de la journée mondiale SIDA, nous pouvons vraiment nous incliner devant les personnes qui ont été endeuillées de cette épidémie d'Ebola. La pression par rapport à l'épidémie du SIDA, comme vous le savez, nous sommes sur une trajectoire très bien brisée au plan mondial. L'épidémie est très bien sous contrôle en termes de nouvelles infections. Elles ont été réduites, de même que le nombre de personnes qui sont décédées de SIDA. La RDC, manifestement, a une épidémie stable, comme nous le disons, autour de 1,2%. Il n'y a pas une progression de cette prévalence en dehors de nos provinces qui est à l'Est, effectivement, où ça tourne autour de 3-4%, c'est Maniema. Sinon, tout le reste, l'épidémie est stabilisée. Les nouvelles infections sont autour de 30 à 34 000 personnes. Le nombre de décès également a était diminué. Cependant, les grands défis pour la RDC tournent autour de ce que j'appelle la couverture de services essentiels pour les personnes qui vivent l'épidémie. Il y a environ 430 à 420 000 personnes qui sont vivant avec le VIH estimé, et environ une personne sur deux a accès aux antirétroviraux, voire moindre, dans certaines provinces. La couverture chez les femmes séropositives qui ont besoin d'antirétroviraux pour que la transmission mère-enfant soit totalement arrêtée, parce que c'est possible, là aussi nous en sommes à des prévalences de 33 à 40% de femmes séropositives qui ont accès aux antirétroviraux. Chez les jeunes, comme chez les jeunes filles, comme vous le savez, les méthodes de prévention, de couverture de services de prévention sont relativement faibles en termes de couverture. Nous sommes entre 30% chez les populations stables et 80% chez les groupes à risque en termes d'accès aux services de prévention. Ça veut dire quoi? Nous devons encore redoubler d'efforts pour que d'ici à septembre prochain, où l'on va évaluer les OMD, qu'on atteigne au moins le nombre de personnes qu'on avait convenu. Au plan mondial, on s'était convenu à 15 millions de personnes, et actuellement nous en sommes à 13 600 000 personnes. Donc nous devons accélérer pour que cet objectif soit atteint, ne serait-ce que le nombre de personnes sous antirétroviraux. Le reste, c'est mobiliser autour de la mobilisation des ressources. L'épidémie n'est pas encore stoppée, contrôlée, parce qu'il n'y a pas de traitement efficace à 100%. Il n'y a pas de vaccin. Ça continue à se propager quand même au niveau de certains groupes clés, comme les populations carcérales, comme les prostituées ou les travailleurs du sexe, comme les personnes ayant des relations sexuelles avec les hommes, particulièrement ce qu'on appelons les MSM. Donc, il y a des corps groupes transmetteurs de cette épidémie que nous devons encore soutenir et accompagner en termes d'accès de soins. Le reste, c'est également promouvoir les droits humains, éviter la stigmatisation et la discrimination des personnes qui vivent cette épidémie. Comme vous le savez, il y a beaucoup de personnes vivant avec le VIH. Nous devons vivre dans un environnement sain. Il y a la problématique de l'application de cette loi 2008 qui fait état de la protection des personnes qui vivent l'épidémie. Et bien entendu, une politique de mobilisation de ressources internes pour garantir la durabilité de ces fonds. Parce que, comme vous le savez, plus de 80% des ressources de lutte contre le sida viennent encore de l'extérieur et nous avons besoin de pérenniser avec les fonds du gouvernement. Cependant, il y a de bonnes nouvelles par rapport à cela parce que le Fonds mondial a mobilisé quand même une enveloppe conséquente par rapport à la RDC. Les bailleurs de fonds qui sont dans ce pays, notamment les bilatéraux, mais également le système des Nations Unies qui fait du très bon travail autour de leur mandat et par rapport à ce qui est possible dans les Nations Unies, c'est-à-dire l'expertise technique, accompagner les politiques de mobilisation, de plaidoyer, mais surtout évaluer la situation. Je pense que l'ensemble des sponsors des Nations Unies présents dans ce pays contribuent de façon décisive à ces résultats que je viens de dire en termes de lutte contre le VIH-SIDA. Je vous remercie de votre aimable attention. S'il y a des questions particulières, nous pourrons répondre. Merci beaucoup.
Voilà, merci donc au docteur Sako.